voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle de l'électronisme. Si vous savez, par exemple, aller sur Facebook, mais que vous éprouvez de réelles difficultés à payer vos factures en ligne, à faire des recherches sur Internet, à envoyer des candidatures pour trouver un travail, eh bien, sachez déjà que vous n'êtes pas seul. 35% des personnes en France éprouvent au moins une forme de difficulté sur Internet. Ça, c'est pour la France. Le télétravail, les démarches administratives sur Internet ont laissé sur le bord du chemin un public en voie d'exclusion. Alors, qui sont les plus touchés par ce que l'on appelle l'électronisme, C'est un peu symétrique de l'illettrisme, on verra exactement ce que ça recoupe. Comment réduire la fracture numérique? Les voisins et les voisines, appelez-nous pour nous parler de vos difficultés sur un smartphone, sur un ordinateur, c'est surtout sur un ordinateur aujourd'hui. Et dites-nous en quoi, surtout, ça vous pénalise dans la vie quotidienne. Si vous maîtrisez WhatsApp, c'est très simple, le numéro de téléphone, c'est le 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Jean Dédier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'Emmaüs Connect et de We Take Care, qui sont deux associations consacrées à l'inclusion numérique. François Huguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en liaison avec nous, vous êtes sociologue et vous êtes rapporteur des événements numériques en commun. C'est une initiative nationale qui réunit les acteurs de la médiation, les collectivités locales, les entreprises, dans le développement d'un numérique inclusif, parce qu'il faudra bien s'y mettre tous ensemble hein, pour ne laisser personne sur le bord de la route. On sera aussi en ligne avec notre correspondant en Corée du Sud, Nicolas Roca, un des pays du monde les plus connectés, mais dont la population vieillit rapidement, ce qui pose problème. Je vous rappelle notre numéro, 33 7 64 45 51 41. L'émission est pour vous si vous avez des difficultés sur un ordinateur. Je vous lis quelques messages. Coucou, il a 19 ans, il habite Tablikbo, dans le sud du Togo. Et il nous dit, moi je ne sais pas me servir d'un ordinateur ni d'internet parce que je n'ai pas appris à l'école. Je rentre en fac de lettres à Lomé, donc je pense que je vais apprendre. Je demanderai à ceux qui savent de venir avec moi dans un cybercafé pour m'expliquer. Cher, à 18 ans, il est en terminale scientifique à Mbour, au Sénégal. Moi je suis sur WhatsApp, sur Facebook, je regarde des vidéos, je télécharge des PDF avec mon téléphone. Je sais juste allumer un ordinateur et faire des transferts de fichiers et rien d'autre. En fait, ce sont mes amis qui savent, qui me montrent comment faire quand j'en ai besoin. À l'école primaire, il y avait un ordinateur disponible pendant les récréations. On savait juste comment entrer le code, aller sur Google, regarder des dessins animés. Très peu de mes amis ont accès à l'ordinateur. Moi, je veux aller en France étudier dès l'année prochaine, mais je dois me former, notamment pour les démarches administratives pour postuler. Ferdinand est à Abidjan. En terminale, on a 2 élèves sur 10 qui ont accès à un ordinateur à la maison. En revanche, tous les élèves ont un smartphone. Les difficultés sont donc réelles pour les élèves. Un ordinateur reste un appareil de luxe. Et puis, on est en ligne aussi avec un voisin qui est Augustin. Augustin qui est à Conakry en Guinée. Bonjour Augustin.
Bonjour madame, bonjour 7 milliards de voisins.
Soyez le bienvenu Augustin. Alors vous, quel est votre problème?
Oui, mon problème est que je n'ai pas d'ordinateur, pas faute de moyens.
Oui.
En plus, je ne connais pas les différentes parties d'un ordinateur,
oui.
Les claviers, les logiciels y compris.
Oui.
Et cela fait que à la fac, une fois j'ai des documents à fournir, à saisir, je vais directement dans un cyber et ça me coûte au moins à chaque 3 pages, 2 pages, quelque chose de 1500 francs guinéens.
Oui.
Voilà. Donc,
oui. Oui, donc c'est une vraie dépense. Vous êtes étudiant en 3e année d'anglais, c'est ça?
Oui, oui, exactement. Je suis étudiant en langue anglaise.
Et l'ordinateur n'est pas indispensable pour vos études. Vous arrivez à vous en sortir de cette façon-là?
Bon, nous, on dit que c'est l'État, c'est le gouvernement qui envoie les étudiants dans les universités publiques, mais bon, le constat, il est vraiment déplorant parce que, vu le pléthore d'étudiants, franchement, c'est pas possible. Donc, cela fait que nous avons des difficultés à pouvoir faire certains travaux et qui nous n'avons pas les moyens.
Oui, trop d'étudiants à l'université. Donc, évidemment, un programme numérique serait difficile à envisager dans ces conditions. Le cybercafé, vous êtes nombreux à nous parler du cybercafé qui vous sauve littéralement dans cette génération quand vous allez à l'université. Merci, Augustin, de nous avoir appelés. Diane aussi nous dit qu'elle est étudiante. Elle a terminé son école de kiné et elle raconte, comme beaucoup d'autres, l'importance des cyber. C'est en allant au cyber qu'on a pu lui faire la mise en page de son mémoire de fin d'études, la pagination, la mise en place des images en lien avec les textes, etc. etc. parce qu'elle ne savait pas le faire et c'est normal, elle non plus n'a pas d'équipement, n'a pas d'ordinateur. Une jeunesse en difficulté, surtout par manque d'équipement en Afrique, c'est ce que vous constatez, Jean Dédié, c'est ce que vous diriez ?
Oui, et d'ailleurs, c'est pas qu'en Afrique. Le coût de l'équipement et de la connexion pèse lourd, en fait, sur les budgets des gens qui ont le moins de moyens. Et ça reste un obstacle aussi important, d'ailleurs, qu'il ne faut pas oublier non plus un certain nombre de zones blanches hein, qui existent en France, mais ici aussi encore beaucoup plus largement sur le territoire africain. Ouais. Donc,
on s'en est rendu compte pendant la pandémie, quand les enfants, les lycéens, les écoliers, etc. n'allaient pas à l'école, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'ordinateur à la maison.
Oui, il y en avait un et plusieurs enfants.
Ouais. François Huguet.
Le
problème de l'équipement, c'est d'abord ce qui pénalise la jeune génération.
Je crois qu'effectivement, c'est ça. Moi, je connais pas très bien les problématiques liées au continent africain, mais les jeunes générations sont effectivement touchées par des problématiques de cet ordre-là. Moi, je pense que ce qu'il y a de problématique avec ces jeunes générations, c'est de stipuler le fait que elles ont des prédispositions innées à la maîtrise des outils numériques. Et en fait, penser ça, c'est une bêtise, puisqu'en fait, il faut acquérir des compétences pour s'en sortir avec ces mondes numériques et avec ces usages.
Ces compétences, elles sont innées si on a l'ordinateur sous les doigts hein, et si on a le clavier sous les doigts, parce que sinon, effectivement, ce n'est pas inné. Je voudrais qu'on écoute maintenant un témoignage. Alors, on va sauter carrément vers une autre génération. On va écouter le témoignage de Pascal en France, la cinquantaine. Elle dirige un pôle dans une agence événementielle depuis 15 ans à Paris. Elle travaille sur un ordinateur toute la journée. Mais depuis le premier confinement en mars 2020, Pascal est en télétravail et au fur et à mesure des semaines, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas numériquement autonome sur son poste de travail. Elle s'est confiée à Raphaël Constant.
En fait, au bureau, je suis sur un PC classique. Je me sers d'Excel, je me sers d'outils qui sont internes à l'agence.
Et alors Pascal, en quoi la pandémie de Covid-19 a amplifié en fait vos difficultés d'utilisation des outils du numérique ?
En fait, on a tous donc pendant la Covid été en télétravail et je travaillais via TeamViewer qui est un logiciel qui me permet de rentrer dans mon ordinateur à l'agence où que je sois. Au départ, ça se passait bien, mais il y a des moments compliqués, c'est-à-dire que la connexion ne se fait pas, vous ne savez pas pourquoi, le mot de passe bug, vous ne savez pas pourquoi. Et ça, voilà, moi, ce sont des choses qui me stressent, c'est-à-dire que je ne sais pas gérer ça, je ne sais pas, donc j'appelle au secours.
C'est-à-dire
que si on ne me donne pas la marche à suivre, rentrer dans l'application et rentrer les codes, si je n'ai pas tout ça décrit à côté de moi, ce n'est pas ludique, je ne sais pas faire.
Et alors justement, Pascal, comment se sont passées vos journées en télétravail chez vous ?
Quand j'avais des réunions ou des visios, qu'il a fallu que j'installe des systèmes dont je ne sais même plus le nom sur mon ordinateur, là, ça a été panique à bord. Quand j'avais un interlocuteur, je n'avais pas l'autre. Quand j'avais l'autre, j'en perdais un. J'étais un peu désemparée. En fait, on n'a pas appris. On a été un peu submergé par la pandémie, submergé par le télétravail et il a fallu gérer les problèmes d'ordinateur. Je suis même arrivée à avoir des migraines de temps en temps à force de m'énerver sur mon ordinateur, de ne pas voir ce que j'étais en train de faire, de ne pas avoir les connexions que je voulais. Au bout d'un moment, vous faites n'importe quoi, donc vous faites bugger le tout, donc vous vous retrouvez devant l'écran noir. Tout le monde en a un peu pâti, parce que le fait de ne pas arriver à faire quelque chose, le fait de s'énerver, vous avez par exemple un mot de passe qui ne fonctionne pas, vous prenez petit cahier, parce que moi j'ai un petit cahier où je note tout, vous faites le mot de passe, ce n'est pas celui-là. Il y a un moment, vous êtes au paroxysme de l'énervement et de la douleur, parce que vous vous dites, mais comment je vais faire ? En fait, quand j'ouvre mon ordinateur, j'ai toujours une angoisse. Vous savez, le petit pincement au milieu du ventre qui vous dit est-ce que ça va fonctionner ou pas, est-ce que cette foutue connexion va se mettre en route ou pas. Et quand vous cliquez et que vous voyez OK en marche, oh, c'est un tel soulagement, mais on ne peut pas imaginer ce que ça fait à quelqu'un comme moi qui est complètement bloqué. dépendre d'un outil numérique comme ça pour avancer, pour travailler, pour moi, c'est pas normal, c'est une souffrance.
Mais alors, comment vous avez réussi à vous en sortir et finalement à correctement travailler ?
Chez moi, ils ont pu m'aider, me montrer le nombre de fois où j'ai appelé mon mari au secours, qui sourit et qui vient gentiment m'aider, alors qu'il me l'a déjà montré 10 fois, mais c'est pas rentré dans ma tête. Au bureau, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Quand il y a quelque chose que je ne sais pas faire, j'appelle au secours, et il y a toujours des gens compétents qui, eux, ont appris ou dont c'est le métier et qui sont là pour me seconder sur ces problèmes techniques.
Donc, en fait, avant le télétravail, vous n'aviez pas conscience que c'était si compliqué pour vous de vous servir des outils du numérique ?
Pas du tout. J'avais conscience que j'étais pas très douée pour ça. En fait, c'est pas parce qu'on a les outils qu'on sait s'en servir.
Tout ce stress dû au numérique, qu'est-ce que ça a créé chez vous ?
Ça a créé d'abord une angoisse et en plus un sentiment de solitude face à ce vide qui est créé par l'écran. Pour moi, c'est terrible. Le numérique m'a fait pleurer. En fait, c'est la première fois que j'ai ressenti cette souffrance et surtout une souffrance au travail. J'ai toujours été heureuse et épanouie dans mon environnement professionnel. Puis ça vous prend aux tripes. C'est une souffrance entière parce que vous vous sentez seul, abandonné et impuissant face à des choses que vous voulez faire, mais que vous ne pouvez pas parce que vous dépendez d'une technique que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est terrible.
Donc aujourd'hui, vous êtes toujours en télétravail, Pascal. Comment vous allez continuer à travailler ?
Oui, alors j'en ai parlé à mon entreprise et nos RH sont d'accord qu'il est important qu'on puisse avoir des formations de base qui vont nous aider à évoluer et à ne plus être enfermés dans une prison numérique.
La prison numérique, les mots sont forts, Jean Dédier, la prison numérique qui crée les larmes, la souffrance au travail.
Oui, c'est un témoignage très riche dans lequel il sonne comme une évidence qu'il n'y a pas que des exclus numériques et que d'être pleinement autonome, en fait, c'est un challenge du quotidien. À chaque nouvel usage, que ce soit dans son travail, pour faire des achats, etc., on y est mis à l'épreuve. Voilà. Et même dans les usages que l'on a, il y a des mises à jour de compétences permanentes qui, sans accompagnement, génèrent ce sentiment d'isolement et de stress. Voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très charmant aussi dans ce témoignage, c'est la solidarité. Voilà. Et ne pas oublier que le premier réseau d'inclusion numérique, c'est la famille et les proches, et qu'on peut probablement aller plus loin pour aider cette famille et les proches et dynamiser ce besoin d'accompagnement, même si ce n'est pas la panacée.
Alors, le témoignage de Pascal, est-ce qu'on peut, on peut pas dire qu'elle est en situation d'électronisme ? Ce n'est pas ça du tout. Et pourtant, ça crée une panique quand même, le numérique.
C'est ça. Donc, elle est confrontée à des nouvelles situations. Hein, qui on considère qu'elle est en pleine autonomie parce qu'elle est équipée. Voilà. Et en fait, on doit s'adapter. Alors, l'entreprise s'adapte, va développer des formations, mais elle ne les a pas. Et le temps de monter en compétences, en fait, c'est des temps d'énorme stress.
Et l'électronisme, c'est quoi la définition stricte ?
Alors, l'électronisme, c'est des gens qui... Alors, il y a plusieurs définitions, mais il y a les gens qui n'ont aucun usage et dont on sait qu'ils n'en auront jamais. Voilà. Et donc, c'est des gens qui ont besoin d'assistance durable. Voilà. Et puis, il y a des gens qui sont débutants, mais qu'on peut former. Et puis, il y a des gens qui ont besoin d'être mis à jour dans leur capacité au quotidien. Ben, c'est tout ça. Voilà. Donc, il y a diverses formes d'électronisme qui va effectivement de la personne qui n'aura jamais cette capacité.
François Huguet, qui sont les personnes les plus touchées ? En termes de génération, on l'a vu, hein, on a entendu des jeunes aussi qui parlent de leurs difficultés. En termes de génération, en termes de milieu social, en termes de territoire, François Huguet ?
Mais alors, en France, la majorité des personnes en difficulté avec le numérique, c'est quand même les personnes âgées. Quand on regarde l'étude de référence qui est faite tous les ans sur ce sujet, c'est qui s'appelle le baromètre du numérique, on voit bien que c'est les personnes les plus âgées qui sont en difficulté avec le numérique. Néanmoins, et là votre témoignage l'a bien montré, c'est que il existe, et c'est ce que disait Jean aussi, il existe différentes formes d'embarras avec le numérique. Et en fait, plus on a d'usage avec le numérique dans un cadre professionnel, ben en fait plus on a d'embarras, de problèmes avec le numérique. Et il faut pas oublier que la technologie est un serviteur utile, mais un maître dangereux. Et du coup, on a plus on doit utiliser cette technologie, je crois, et plus on se retrouve face à des difficultés avec le numérique. Quand on est dans une famille avec des personnes, des pères à qui on peut s'adresser pour une problématique qu'on a d'une démarche administrative à faire en ligne, Et si ça se résume à ça, notre besoin d'aide, ben ça se passe bien. En réalité, c'est plus on a besoin, si on en a besoin pour travailler, si on en a besoin pour faire des apprentissages avec les enfants, si on en a besoin pour maintenir de la sociabilité avec ses amis, et ben en fait, c'est plus on a d'usage, plus on a de difficultés, je crois.
Concernant les jeunes, on le voit bien, ils savent évidemment aller sur les réseaux sociaux, ils font des jeux en ligne, mais dans certains milieux, les jeunes ne savent pas se servir d'un PowerPoint pour préparer un exposé en classe ou pour leurs études, ne savent pas utiliser de PDF, modifier un PDF. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi, François Huguet ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment arrêter avec cette expression de digital native et de croire que les plus jeunes ont plus de compétences et qui naissent avec ces compétences-là. Effectivement, comme vous le disiez, ils sont capables de jouer aux jeux vidéo, à jouer à Fortnite, etc. Mais les enseignants témoignent très bien du fait que quand ils amènent leurs élèves de section d'enseignement général en salle informatique et qu'ils leur demandent d'ouvrir un navigateur Internet, on voit très bien que beaucoup de ces jeunes-là sont déconcertés par des consignes aussi simples que celles-ci. Et en fait, on se rend compte que le maniement des outils numériques chez eux, ce n'est pas une compétence innée.
Là, c'est lié au milieu social dans ces cas-là, François Huguet. Cette fracture au sein de la jeune génération.
Oui, oui et non. En fait, on a des jeunes qui sont capables de jouer à Fortnite, à publier des statuts Facebook et des stories sur Snapchat, mais quand ils doivent faire un usage éducatif de l'outil numérique, ils redeviennent chétifs et impuissants, ces êtres chétifs et impuissants qui sont devant un livre, un cahier. Et ça, c'est à peu près quand même tout.
Jean Dédier, l'ampleur de la fracture sociale pour vous, vous qui avez fondé Emmaüs Connect, qui était vraiment une association, un programme dédié aux exclus, d'abord exclus socialement du numérique.
Non, mais effectivement, il y a l'âge qui est probablement le phénomène le plus excluant. Et après, il y a effectivement la fragilité sociale. Voilà, pas d'éducation, pas un rond. Tout ça sont des obstacles pour pouvoir avoir son équipement au quotidien et avoir des usages réguliers. Donc, pour compléter le propos, voilà, c'est ça. C'est un, les personnes âgées. Deux, les gens qui n'ont pas un rond. Et puis aussi, pas perdre de vue, qui a aussi. Et c'est le monde du handicap aussi qui peut être aussi très touché par le peu d'adaptation d'un ensemble de services en ligne et dont le quotidien, du coup, est bouleversé.
Les personnes non-voyantes, malentendantes, etc. Problèmes pour accéder à des réservations de billets de train, des choses comme ça.
Exactement.
Concernant les inégalités de territoire, François Huguet, si on est né au mauvais endroit, ça va être encore pire, la déconnexion numérique ?
Je crois, et en fait, on a des chercheuses américaines qui ont notamment travaillé sur ça et elles ont montré des choses hyper intéressantes. Elles ont montré que la classe sociale, ce truc dont on a du mal à parler, bien ça façonne en fait la compétence et l'usage en matière d'outils numériques. Et elles ont notamment montré que 72% des utilisateurs d'Internet en milieu ouvrier ont un objectif de divertissement contre 36% seulement chez les cadres supérieurs. Donc en fait, il y a des différences à l'intérieur même des usages qu'on fait de l'Internet. Et ça, c'est important pour bien comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a des inégalités sociales qui se reproduisent même au cœur des outils numériques.
Alors, ces inégalités sociales, ça veut dire que finalement, moins on a d'éducation, plus on va en faire un usage récréatif. On ne va pas utiliser toutes les possibilités de l'Internet pour s'informer, se documenter. Ça veut dire que cette partie-là de la population fragile, elle est plus fragile face aux fake news, aux théories du complot, aux arnaques aussi sur Internet. Quand on voit une pub en début de vidéo qui diffuse un message alarmiste et faux sur tel ou tel produit alimentaire, on va croire ?
Et oui, on croit plus. Et puis surtout, on a cette idée très fausse de croire que Internet est un lieu capable de revitaliser la démocratie. Internet est un lieu gouverné par la raison, affranchi de gatekeepers. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Et quand les journalistes ou les décideurs politiques qui s'appuient sur les réseaux sociaux, de fait, ils font de l'exclusion sociale et ils favorisent les gens qui ont le temps, les ressources et les compétences pour être en ligne. Et ils ne s'adressent pas à ceux qui comprennent, qui ne sont pas sur ces espaces-là. Ouais.
Je vous repose ma question sur les inégalités de territoire, François Huguet et Jean Dédier aussi d'ailleurs. Est-ce que, en fonction des villes, des départements où on va grandir, on a plus de risques d'être déconnecté. En gros, il y a des villes qui se sont mobilisées pour essayer de faire en sorte qu'on soit moins exclu.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, dans le déploiement des infrastructures, ça commence d'abord dans les villes, et puis on va vers les endroits les plus éloignés. Hein, c'est un peu comme le train, quand on s'est construit les lignes de train. Et puis ensuite, dans le monde de la ville, vous avez des capacités de médiation, d'accompagnement, des lieux ressources qui existent, on va dire, plus abondamment, évidemment, que dans les territoires isolés. Ou même, d'ailleurs, finalement, les services publics sont très mal représentés. Donc le soutien est beaucoup plus facile dans le monde urbain que dans le monde périurbain ou dans nos campagnes.
Parfois, ceci dit, on peut avoir des idées reçues, Jean Dédier. Je crois que la Corse, finalement, a mené une vraie politique là-dessus.
Non, alors oui. Après, tous les départements se lancent...
François Huguet.
Non, moi, je prenais cet exemple-là. Je veux dire que... En réalité, il y a certains départements qui sont considérés comme des départements ruraux qui ont vraiment conservé des maillages très forts qui liaient des collectivités territoriales à des associations qui font du service au public, de l'aide à la personne ou qui s'occupent de questions de solidarité. Et ensemble, ils ont réussi à tisser des politiques publiques d'inclusion numérique que je trouve assez intéressantes. Et la Corse est à cet endroit assez intéressante puisqu'elle a très tôt créer ce qu'elle a appelé des PAM, des points d'accès aux multimédia, qui fonctionnent très bien, qui sont installés dans des villages et qui sont reconnus depuis des années, dans lesquels les personnes qui ont des difficultés avec le numérique n'ont pas peur d'aller.
Un peu comme des cybercafés, mais sauf que ce n'est pas du secteur privé, là, c'est financé par les municipalités, l'action locale.
Oui, tout à fait. En fait, je crois que l'important aussi pour combattre l'exclusion numérique, c'est de travailler sur l'accueil qu'on peut recevoir. Là, vos auditeurs le disaient, ils vont dans les cybercafés en Afrique. En France, on voit émerger, voilà, il y a des lieux de confiance qui sont très importants pour des personnes, la maison de quartier, le centre social. Et je crois que c'est à cet endroit-là qu'on peut aller chercher les publics en difficulté et les former.
On a entendu tout à l'heure dans le témoignage de Pascal à quel point ça peut ébranler sa confiance en soi, à quel point on est mal hein, quand on ne maîtrise pas les technologies numériques. Concernant l'accès aux services publics, aux droits pour tous dans un pays comme la France, est-ce qu'on sait chiffrer à quel point ça exclut les personnes de l'accès à l'aide sociale, par exemple, Jean Dédier, puisque vous avez fondé Emmaüs Connect, est-ce qu'on sait à quel point on sait qu'il y a un certain nombre de gens qui renoncent à faire valoir leurs droits à l'aide sociale, notamment pour cause de complexité des démarches sur Internet, parce qu'il faut joindre un document qui doit être scanné, qui ne doit pas dépasser un certain poids, etc. etc. Jean Dédier.
Alors évidemment, les publics fragiles socialement et qui ont peu d'éducation et les publics seniors, par cette dématérialisation et surtout dans une dématérialisation qui est corrélée avec la fermeture des guichets. Ou alors l'accès à ces guichets par des rendez-vous d'ailleurs pris aussi souvent en ligne. Voilà, ou par des appels téléphoniques qui peuvent être payants d'ailleurs également.
La sécurité sociale, aujourd'hui, on n'a plus de contact physique avec la sécurité sociale,
voilà,
pratiquement.
On peut en avoir toujours, mais c'est de plus en plus sur rendez-vous. Voilà, il y a beaucoup moins d'accès libre. Donc évidemment, le temps que toutes ces stratégies digitales inclusives se mettent en place, c'est-à-dire qu'on travaille l'ergonomie, ces sites, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ils ont un locage administratif, ils ont une complexité. Voilà, les premiers qui sont sortis n'étaient vraiment pas les meilleurs. Voilà. Ensuite, effectivement, que ces structures dans les territoires offrent, on va dire, des capacités d'accompagnement et ensuite qu'elles se relient avec les acteurs sociaux pour pouvoir agir, forcément, on a une déperdition sur l'accès aux droits des publics les plus fragiles.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On vous donne la parole sur les exclus du numérique. Amadou nous appelle du Sénégal, de Bombay. Bonjour Amadou.
Bonjour Emmanuel.
Amadou, vous êtes professeur d'informatique en lycée et en université, je crois.
Je suis formateur informatique parce que nous avons un centre de recherche informatique qui a une unité de formation. Mm-hmm. Et là, nous recevons les étudiants et les enseignants pour la plus grande majorité. Mais Emmanuel, vous savez, ici au Sénégal, vraiment l'informatique n'est pas maîtrisée, beaucoup maîtrisée. Et les problèmes c'est plus délicat qu'on le pense. Mmh. Les étudiants, imaginez par exemple un étudiant qui vient fraîchement de l'université, qui a traversé tout un cursus et qui n'a jamais touché à un ordinateur. Mmh. Moi, quand je les reçois dans mon centre de recherche, les Crioules de Bambaye, mais quand on commence les cours, par exemple, je leur dis, bon, je voudrais que vous... Ah, très bien, donc vous me concevez un dossier, vous me créez un dossier de travail. Pour moi, c'est évident.
Oui.
Mais immédiatement, ben, ils vous disent que non, monsieur, nous, on ne sait pas créer un dossier.
Oui. Les employeurs le disent, hein, d'ailleurs, en termes de recherche d'emploi, c'est ce qui pénalise le plus probablement les jeunes diplômés sur le continent africain. Difficulté à mettre en page un CV, difficulté quand on postule pour un emploi dans la comptabilité à faire un tableau Excel quand on leur demande, ils ne savent pas faire, donc déjà ils sont d'emblée rejetés de toute candidature. Ce sont des conséquences directes ensuite pour l'insertion professionnelle.
Et le problème, c'est que l'informatique n'est pas une matière à part entière dans le système éducatif sénégalais. C'est-à-dire que, imaginez, un élève de la classe d'initiation jusqu'en terminale, vous traversez tous les cursus, vous avez le baccalauréat, le système d'orientation universitaire vous amène dans une filière informatique. Par exemple, je prends le cas de l'université de Bambaye, il y a des filières informatiques vraiment très, très, très poussées. Très, très poussées. Ces élèves-là, ces étudiants qui viennent, ils ont des problèmes, ils n'ont jamais touché l'ordinateur et on doit apprendre la programmation.
Mais à quoi ça sert aussi une filière informatique ou des cours informatiques si on mettait ça en place, si les étudiants n'ont pas d'ordinateur chez eux? Est-ce que ça serait...
Mais en fait, quand ils ont le bac, la plupart des étudiants qui viennent ici à l'université de Bambaye, en fait, quand ils ont le baccalauréat, on leur achète des ordinateurs. Mais le problème qui s'y pose, c'est que...
Amadou, quand vous dites « on leur achète des ordinateurs », c'est qui?
Bah, en fait, leurs parents, quoi. Oui. On, c'est leurs parents, leurs parents d'élèves. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont orientés dans des filières informatiques, c'est à ce moment qu'on leur achète des ordinateurs. Et maintenant, ces ordinateurs qu'on leur achète, et c'est tout neuf pour eux, qu'ils n'ont jamais touché. Et maintenant, ce sont ces problèmes-là que je suis en train de régler à Bambaye. Vraiment, on ne sait pas créer un dossier de travail. On ne sait pas c'est quoi une icône, c'est quoi un fichier. C'est-à-dire, avant même de faire le travail, ce sont ces toutes petites choses-là.
Oui, les notions de base et effectivement le vocabulaire. Je comprends bien votre propos. Merci Amadou de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. On parle de vos difficultés à utiliser Internet, que ce soit les logiciels de bureautique pour suivre des études, les réseaux sociaux pour chercher un emploi. Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, on sera en ligne avec notre correspondant en Corée du Sud, un pays tellement connecté que c'est très dur pour les oubliés du numérique.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, bienvenue.
milliards de voisins. Les oubliés du numérique ont la parole aujourd'hui. Ils sont souvent à l'aise avec un smartphone pour aller voir des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais au-delà, ça devient compliqué. Un auditeur nous le disait tout à l'heure, Amadou à Bambaye au Sénégal. On part maintenant pour l'un des pays les plus connectés au monde, la Corée du Sud. Bonjour Nicolas Roca.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Séoul. Avant qu'on parle des Coréens exclus du numérique, dites-nous à quel point le numérique est partout dans la vie quotidienne chez vous.
Eh bien, il est présent de plus en plus. Hein, dans une grande partie des cafés, des restaurants, maintenant, la pratique de la commande à l'aide d'une borne numérique est généralisée. C'est un peu la même chose en gare et on n'accepte que les paiements par carte. Et en réalité, ici, il y a trois entreprises du numérique qui sont centrales dans la vie des Sud-Coréens et de tous les gens qui habitent en Corée du Sud. Naver, Kakao et Coupang, ces trois géants locaux des nouvelles technologies, permettent d'absolument tout faire, de commander un taxi, de la nourriture, des meubles, de chercher des appartements, de trouver un travail, de s'informer et depuis peu de scanner un QR code. Si en France, l'installation du pass sanitaire est assez récente, en Corée du Sud, c'est dès juin 2020 que les autorités ont mis en place un système similaire qui permet de tracer les cas contacts. Il est nécessaire de le scanner à chaque fois que l'on se rend dans un restaurant, dans un bar, dans un café, dans un musée, un peu n'importe où. Alors malgré tout, il y a encore la possibilité pour l'instant d'écrire à la main son numéro de téléphone dans un registre.
Pour l'instant, comme vous dites. Alors, on imagine que la pandémie a renforcé cette dépendance au numérique de la société sud-coréenne.
Oui, bah, au-delà du système de traçage de cas contacts dont je vous parlais, au début de la pandémie, il y avait des cartes en ligne qui montraient en temps réel l'évolution de l'épidémie, quels lieux il fallait éviter parce qu'ils avaient été fréquentés par une personne infectée. Pareil pour la réservation de vaccins, pour le recours massif à la livraison. Là encore, tout s'est fait en ligne. Et cet usage croissant du numérique, il a exposé la marginalisation d'une partie de la population. Parce qu'en 2019, il y avait seulement 30% des Sud-Coréens de plus de 60 ans qui disaient savoir installer et utiliser des applications mobiles. Un problème notamment aussi pour les propriétaires des restaurants d'un certain âge qui devaient installer l'application pour reconnaître les fameux QR codes. Et puis au tout début de la pandémie, il y a eu une courte pénurie de masques. Elle a créé des files d'attente gigantesques et il y avait ces applications qui recensaient en temps réel les inventaires de masques chez les vendeurs. Donc des informations, vous l'imaginez, auxquelles les personnes qui rencontrent des difficultés à se connecter ne pouvaient pas avoir accès. On a connu aussi une situation similaire avec la vaccination. Même si les doses étaient réservées aux plus âgés, il y avait des applications qui trouvaient les hôpitaux où il y avait des doses supplémentaires disponibles pour ceux qui n'étaient pas encore éligibles.
Et en dehors des changements dus à la pandémie, est-ce que les difficultés des personnes qui sont en situation d'exclusion numérique sont visibles en Corée du Sud à l'œil nu ?
À l'œil nu, oui, au quotidien, c'est visible. Il y a eu des témoignages assez récemment dans les journaux coréens où des personnes âgées se disaient incapables de commander dans les fameuses chaînes de restauration rapide. Mais elle se voit aussi au travail, notamment dans le secteur du e-commerce, dans lesquels certains seniors essaient de compléter leur retraite. Et ils ont du mal à s'adapter, ce qui est d'autant plus compliqué parce qu'on sait que les Coréens travaillent de plus en plus tard. Donc ici, en Corée du Sud, c'est une vraie question.
Et alors, comment les autorités cherchent à répondre à cette déconnexion d'une partie de la population, d'autant plus si ces gens ont besoin de travailler plus tard?
Eh bien alors, comme souvent en Corée du Sud, le paradoxe, c'est qu'on répond au mot de la technologie par encore plus de technologie. En l'occurrence, la ville de Séoul a mis en place des robots à forme humaine pour faciliter l'usage des téléphones portables, des ordinateurs, pour permettre, selon les mots mêmes de la mairie, d'aider les seniors à s'adapter au monde sans contact. Outre cette histoire anecdotique mais symbolique de robots qui donnent des cours aux personnes âgées, la pandémie aura quand même eu le mérite de faire prendre conscience aux autorités de la nécessité d'inclure les personnes âgées à la révolution digitale. D'autant plus qu'ici, en Corée du Sud, la capacité de la population à s'adapter aux innovations est très rapide. Dans le Korean New Deal qui a été prôné par le président Moon Jae-in, il y a un volet entier consacré à l'inclusion digitale. L'objectif officiel est de permettre à 70% des plus de 70 ans d'accéder à une connexion Internet mobile. Et pour cela, il y a des centres d'éducation digitale qui sont en train de voir le jour un peu partout dans le pays.
Voilà, rendez-vous au centre d'éducation digitale. Donc, merci beaucoup Nicolas Rocard en direct de Séoul. On est en votre compagnie, Jean Dédier, fondateur d'Emmaüs Connect et de WeTakeCare, deux associations consacrées à l'inclusion numérique. Et François Huguet, sociologue, spécialiste de ces problématiques de numérique inclusif. Jean Dédier, l'Union européenne a fait de l'inclusion numérique une de ses priorités avec le développement durable aussi du numérique par rapport au changement climatique. Est-ce que la mobilisation politique est à la hauteur du problème ? Je sais que, par exemple, WeTakeCare, vous êtes financé par l'Europe, en partie, si je ne me trompe pas.
Alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, là, il y a de l'argent public au niveau européen, au niveau national, et d'ailleurs au niveau territorial, qui est mis massivement sur le sujet de l'inclusion numérique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on n'a pas tellement anticipé, on va dire, le déploiement très rapide du numérique et qu'on est plutôt dans des formats de un peu de sessions de rattrapage, hein, plus que d'avoir formé des gens qu'on devait former à l'aune de ces déploiements de ces services. Donc les politiques publiques se mobilisent. Le sujet ensuite, c'est de les déployer. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a de l'argent. Cet argent se transforme en projet. Et je pense qu'on va arriver maintenant à l'ère de l'évaluation d'impact de tout ça. C'est-à-dire que toutes ces initiatives qui sont portées sur les différents territoires, pour différentes natures de personnes, en fonction de leurs besoins, là encore, assistance, formation, coup de pouce. Voilà, le sujet aujourd'hui, c'est quel impact de tout ça ? C'est encore trop tôt pour le dire.
Ah, c'est trop tôt pour le dire, vraiment, François Huguet. Parce que, par exemple, il y a des associations de seniors qui ont dit « Nous, on nous amène des jeunes pour nous former au numérique. On ne comprend rien de ce qu'ils racontent. Ce n'est pas des jeunes qu'il faut pour former les seniors, par exemple, François Huguet.
» Oui, mais ça, on se rend compte que ce qu'on appelle la pérédance est une des clés pour faire en sorte que le numérique soit le mieux compris et que les sessions de formation numérique soient les plus efficaces. Donc effectivement, quand on fait un peu de terrain et qu'on va voir comment ça se passe des ateliers d'informatique, on se rend compte que la pérédance fonctionne bien. Après, moi, je pense qu'il peut y avoir des échanges intergénérationnels très bien faits quand ils sont bien, quand ils sont bien conçus. Je pense que si un jeune peut apprendre à une personne âgée et une personne âgée peut apprendre à un jeune d'autres choses, enfin, il faut simplement bien penser et bien concevoir ces moments de formation.
La question qui se pose aussi, Jean Dédier, c'est former, mais à quoi exactement ?
Et j'ai envie de dire, il y a presque autant d'usages du numérique que de personnes, puisque le numérique est partout. Voilà, donc on pourrait se dire, il y a déjà des obligations, c'est-à-dire que le numérique, il est obligatoire. On le voit, vous l'avez évoqué, on l'a évoqué, pour l'accès à ses droits, vers l'emploi, etc. Enfin, pour actualiser ses droits, etc. Donc, il y a une espèce de socle qui doit déjà conduire, alors en tout cas dans les pays occidentaux, en Europe, vers l'autonomie sur le mail. Voilà, quelque part, on puisse garder un dialogue avec cet écosystème qui ne nous adresse plus ou très largement qui nous invite à utiliser le digital. Voilà, ça, c'est probablement le cœur des usages. Puis après, effectivement, il y a des usages de différentes natures de personnes, des jeunes au service de l'insertion professionnelle. Les publics seniors, eux, ils vont avoir besoin de garder un lien social. Les numériques offrent un certain nombre de perspectives. Et c'est donc dans le diagnostic que l'on doit faire des personnes, c'est effectivement chacun ses usages. Et ce qui est compliqué dans la médiation numérique, c'est un, c'est que c'est tout le temps, hein, et que ça doit être extrêmement flexible, mais qu'en plus, ça doit être très adapté à des situations individuelles.
Oui, c'est-à-dire que la personne qui a besoin, par exemple, de faire renouveler ses droits à l'aide sociale, si elle s'en préoccupe deux jours avant la fermeture, par exemple, de la clôture de sa possibilité de mise à jour de ses droits, par exemple, comment elle fait ? C'est pas, enfin, il faut un maillage très souple, il faut des bus qui circulent dans les collectivités locales. C'est quoi la meilleure organisation sur les territoires ?
Alors, effectivement, c'est ce maillage depuis, on va dire, celui qui dématérialise, hein, qui, du coup, doit faire des services les plus accessibles déjà au plus grand nombre. Ensuite, informer, effectivement, tous les acteurs qui vont pouvoir aider les citoyens. Et dans l'absolu, ça devrait descendre jusqu'à la famille et aux proches. Mais qui est au courant aujourd'hui de tous les services du quotidien sur le numérique et comment ça marche ? Dans le fond, aider, c'est à la fois très simple et quand même compliqué.
Jean Dédier, sur aider la famille et les proches des exclus, le premier réseau d'aidants numériques, c'est là aussi qu'il faut se concentrer, à votre avis ?
Dans l'absolu, oui. Après, il faut trouver les modalités, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider ceux qui sont au quotidien à donner des coups de main. Enfin, quand on parle d'inclusion numérique, tout le monde réagit, bah oui, moi j'aide mon grand-père, j'aide ma grand-mère, j'aide une grande-tante. Enfin, voilà, c'est ce rapport-là. Donc, en gros, comment est-ce qu'on peut ramener du contenu pédagogique et des outils simples pour qu'effectivement, ils puissent faire un peu à la place d'eux, mais beaucoup aussi, tant que c'est possible, développer l'autonomie de ces personnes.
François Huguet, sur les...
Oui, mais moi, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Jean. En revanche, moi, je pense qu'il faut aussi déplorer quelque chose. Et Jean le disait un petit peu tout à l'heure, on est en permanence d'un rattrapage, c'est-à-dire il faut rattraper un retard, etc., sur une technologie qui nous dépasse, et on a tendance un petit peu à oublier la responsabilité des personnes qui ont fabriqué ces technologies-là. Et qu'aujourd'hui, par exemple, il faut faire de l'aidance numérique, en fait, il faut retricoter ce qu'était un service public à une certaine époque, qui possédait des guichets, qui accompagnait individuellement des personnes. Et je trouve que c'est compliqué d'être dans cette position comme ça de rattrapage et de devoir inventer un numérique, du moins des aides au numérique qui viennent rattraper des choses. Le numérique, il a de cesse, on sera en permanence en retard. Aujourd'hui, on a des nouveaux usages qui arrivent, la réalité virtuelle, plein de choses nouvelles. Du coup, on va en permanence devoir rattraper des choses, former des personnes. Donc, je pense qu'il faut vraiment adresser la question de quel numérique on veut et de quelle manière il aide l'ensemble des citoyens, de quelle manière il devient un numérique véritablement éthique et un numérique d'intérêt général. Je pense qu'il faut aujourd'hui mettre des efforts sur ce numérique-là.
Ousmane nous envoie ce message, il est à Bamako, il est gestionnaire de ressources humaines, donc il est recruteur. Hein. Il nous dit « l'informatique c'est lié à la pratique, les jeunes ne sont pas toujours les mieux outillés ». On en a beaucoup parlé à travers les témoignages des jeunes. Moi je leur dis de s'y mettre parce que les entreprises veulent que le candidat sache utiliser Word et les bases d'Excel. Voilà, je crois que le message est clair pour tous ceux qui nous écoutent. Word, les bases d'Excel. Moi j'ai appris sur le tas, les cybercafés sont là pour ça. Vous êtes très nombreux à parler des cybercafés comme finalement le principal relais sur le continent africain, d'un manque hein, dans les cursus éducatifs. Chérifou nous appelle également, étudiant sénégalais. Bonjour Chérifou.
Oui, bonjour Emmanuel.
Chérifou, bah oui, en tout cas, vous avez senti l'utilité de la formation informatique parce que vous avez créé un cabinet virtuel pour aider des étudiants à s'inscrire sur Campus France pour ceux qui veulent aller étudier en France, c'est ça?
Oui, c'est ça Emmanuel. J'ai créé un cabinet cette année et j'étais en train d'aider les étudiants depuis en 2018 pour les études en France, mm-hmm. pour les étudiants sénégalais qui désirent continuer leurs études à l'étranger. Auparavant, c'était un service d'amis, tout ça, mais maintenant ça commence à prendre de l'ampleur. Et de plus en plus, quand je rencontre des étudiants, je trouve que ce sont des gens qui ont du mal avec, qui ont beaucoup de problèmes avec l'électronique en fait. Mm. Oui.
Donc vous en avez fait un business. Et vous-même, vous avez étudié, je crois, en Tunisie. Vous avez un master en droit privé, c'est ça?
Oui, un master en droit des médias et du numérique.
Aussi, oui. Et comment vous avez fait vous-même?
Bon, moi-même, au début, lorsque j'ai eu mon baccalauréat en 2013, je vais vous donner une anecdote. Je me suis rapproché d'un gérant de cyber pour créer mon Gmail. Je ne savais même pas comment créer un Gmail en ce moment.
Une adresse mail.
Mm. Cette curiosité pour maintenant combler cette barrière, pour franchir cette barrière, je me suis investi là-dessus de manière pratique. Je n'ai pas fait des formations en ce sens. Mais par curiosité, j'ai essayé d'apprendre ça. Mm. Parfois, je me connecte dans YouTube. Essayer de voir comment on fait. Aujourd'hui, je suis devenu un petit génie de l'électronique.
C'est ça, grâce à YouTube, grâce au tuto.
Voilà.
Mais vous parliez effectivement de l'absence d'équipement, hein, puisque vous avez fait vos premières armes au cybercafé parce que vous n'aviez pas d'ordinateur et de connexion Internet à la maison. Merci beaucoup, Chérifou, de nous avoir appelé. Les équipements reconditionnés, parce qu'on l'a bien dit au début de l'émission, hein, Jean Dédier et François Huguet, il y a un problème d'équipement, y compris en France, pour les gens qui ont le moins d'argent. Les équipements reconditionnés, est-ce que les gens qui sont de conditions les plus modestes, est-ce qu'ils savent comment avoir accès à des ordinateurs reconditionnés aujourd'hui? Ça coûte combien?
Alors, ordinateur et smartphone, ça reste assez compliqué. Alors, pour ce qui est des smartphones, c'est que en fait, tout le matériel qui est un peu de qualité, on pense notamment aux flottes des entreprises, en fait, ce sont des marchés qui sont préétablis avec des brokers qui les récupèrent quand ils ont de la valeur résiduelle et qui vont les revendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce marché-là, en fait, les appareils de seconde main d'une certaine qualité arrivent très rarement dans les mains de gens qui ont des problèmes budgétaires. Voilà, donc l'équation n'est vraiment pas simple. Il y a plein d'initiatives sur les territoires de création de filières. Mais effectivement, le plus souvent, on récupère du matériel avec une valeur résiduelle minime. Et le travail qu'il faut faire pour le mettre à jour, etc., coûte.
C'est ce que vous faisiez à Emmaüs Connect.
Oui, bien sûr, c'est ce que fait Emmaüs Connect. Et donc, la marge de manœuvre pour déployer à grande échelle du matériel de seconde main, elle est assez limitée. Voilà, donc, l'alternative...
Pour toucher ceux qui en ont le plus besoin.
C'est ça. Donc, il y a comme ça quelque chose.
En fait, ça a été préempté par le business, finalement.
C'est un business, c'est une valeur résiduelle. C'est d'ailleurs souvent des marchés de location financière. Et quand... une innovation arrive ou de manière régulière, on se dit tous les 3 ans, allez, on va changer, ou tous les 4 ans, on va changer la flotte.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, pour que ces équipements soient plus accessibles, surtout l'ordinateur, parce qu'on l'a bien vu, hein, la vraie rupture, elle est sur l'accès à l'ordinateur.
Écoutez, il y a beaucoup d'initiatives individuelles, au niveau territorial, local, on peut construire des filières. Voilà, donc ça, c'est une alternative et il y a beaucoup de jolies choses qui existent. Et puis, une deuxième alternative, c'est de se dire, ça rentre dans les politiques publiques. Et quelque part, on subventionne le coût de ce matériel.
Vos messages à tous les deux pour l'inclusion numérique, c'est-à-dire en français correct, ne laisser personne sur le bord de la route pour avoir accès à ses droits, payer ses factures, trouver un travail grâce à Internet, manier les logiciels qu'il faut aussi pour avoir accès à un emploi. François Huguet.
Oui, mais Jean le disait, il existe des tonnes d'initiatives aujourd'hui. Certaines ont vu le jour il y a quelques années, qui nous poussent à penser un numérique donc à la fois éthique, mais aussi durable, c'est-à-dire des entreprises, des chantiers d'insertion qui vont récupérer des flottes entières de CHU ou d'administration ou de grandes entreprises comme ça, publiques pour le coup, et ils le reconditionnent, ils le revendent à des prix minimes. Et là, il y a toute une nouvelle économie à inventer sur ça il me semble assez intéressante, mais qui reste à être, enfin qui reste, il faut continuer de la subventionner, il faut surtout continuer d'en faire la publicité. et de montrer que eh bien, l'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui est pas très bien, et que avoir un numérique plus durable, plus éthique comme ça et qui dure plus longtemps, mais c'est plus intéressant.
Jean Dédier, je vous laisse le mot de la fin. Vous l'avez dit, il y a énormément d'argent disponible de l'Europe pour la mise à jour de tous ces exclus du numérique. Est-ce que ça servira vraiment à quelque chose ?
Alors d'abord, il y a énormément d'argent, mais il n'y en a jamais assez. On est sur un sujet, on parle de 35% des Français et des populations en général qui ont besoin de coups de pouce. Oui, ça progresse, les usages progressent. Je vais vous partager quelques chiffres. Voilà, en France, on est en un an. Voilà, l'usage du smartphone a progressé de 6 à 7 points. L'usage du PC a progressé de 6 ou 7 points. Un autre usage très central, duquel le commerce en ligne, qui a quand même comme vertu souvent d'être moins cher, pour autant qu'on se fasse pas arnaquer. Voilà, il a progressé de 14 points en un an. Voilà, donc ça va dans le bon sens. Et après, effectivement, moi je trouve que cette dimension éthique et de solidarité, elle peut être un peu mieux structurée, un peu mieux pensée. Voilà, il y va du choix de notre société demain.
Merci à tous les deux. Jean Dédier, fondateur d'Emmaüs Connect et de We Take Care, donc deux associations consacrées à l'inclusion numérique. Et merci à vous, François Huguet, sociologue, spécialiste de l'inclusion numérique. Demain, 7 milliards de voisins, on sera très loin du monde virtuel. On parlera du baiser. Les embrassades ont été fortement déconseillées avec la pandémie. Un sociologue a enquêté sur le sens du baiser aujourd'hui. Amitié, tendresse, amour, c'était pas du tout le sens du baiser il y a quelques siècles, on le découvrira. Et vous, les voisins et les voisines, dites-nous si vous avez abandonné certains cas d'embrassade depuis la pandémie. Et si c'est le cas, quels sont aujourd'hui vos critères pour embrasser ou pas, dans quelques instants. En tout cas, ce sera le journal, juste après ce rap électro-franco-colombien Caleño. Oscurece y me pierdo en la ciudad, buscando lo que no se me ha perdido. Todos piensan que mi vida es solo felicidad. También tengo mis problemas, tengo mis líos. Cada vez que me pierdo, que me ahogo y que me vuelva a encontrar. Me da vueltas la mente, ya no sé ni cómo actuar. Consejos de familia y el miedo al que dirán. No sé qué camino seguir, mañana qué será. La sociedad dice que tengo que pensar en seguridad. Pero yo me voy más por la aventura. Me encanta no saber a ciencia cierta nada. Si lo que me propongo va a funcionar. Cuando vas en tu carro conduciendo de noche, que a los camiones vas pasando a toda velocidad. Te concentras en el vehículo de adelante y el color rojo de su luz trasera. Así mismo voy avanzando, viviendo mi vida, pisando fuerte y siguiendo mi instinto. Las decisiones son mías, no de los demás, pero algo es seguro y es que solo no aguanta. Necesito un guía que me acompañe cuando vaya manejando por carretera de viaje. Alguien que llegue a mi vida y me pueda orientar. La motivación que me pueda inspirar.
Milliards de voisins, c'est fini.
Tout à l'heure sur RFI.